maintenant sur les ondes de Radio Albitzes, retrouvez votre créneau conférence.
Bonjour, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous rediffusons la conférence Forum Habiter Autrement qui a eu lieu à la 40e édition de Biocibel en 2022. Rencontre donc avec trois projets tarnais d'habitat participatif ou coopératif, les Amars, situés à Coufouleux, au Jardin La Bastide, eux aussi de Coufouleux, et enfin Coop à Vivre de Gaillac. Ces trois projets ont pour objectif de sortir de la logique de l'habitat individuel par la création de lieux de vie et de partage en dehors de toute logique de profit immobilier. Pour cela, ces trois personnes ont choisi trois voies différentes. Propriété individuelle et partagée dans les deux premiers cas, ou droit d'usage collectif pour Coop à Vivre, c'est-à-dire qu'il n'y a ni propriétaire ni locataire de la bâtisse. Je vous laisse donc à cette conférence en vous souhaitant une bonne écoute.
Bonjour. Clôturer les conférences donc, de cette 40e édition de Biocibel. Hein, donc, on vous propose ce forum Habiter Autrement qui réunit donc, des personnes investies dans trois projets d'habitat participatif ou coopératif. Hein, les Amarais à Coufouleux, au Jardin La Bastide à Coufouleux et Coop à Vivre à Gaillac. Donc, un petit mot d'entrée en matière. Habitat participatif, c'est plutôt, naturellement, ces définitions et derrière ces mots et ces définitions se rencontrent des réalités qui peuvent être très différentes d'un endroit à l'autre. Hein. Mais je dirais, en ce qui concerne en particulier ces trois projets, il ne s'agit pas ici d'un magasin de prêt-à-porter pour trouver la solution pour ne pas vieillir seul et idiot, hein, mais de présenter trois visions d'un vivre ensemble hein, pour ce qui nous reste à chacun à vivre, étant entendu, naturellement, ce qui reste à chacun à vivre, c'est naturellement plus court pour moi que pour beaucoup d'entre vous. Et à partir de cela, donc, habitat participatif, c'est plus, je dirais, un habitat où c'est vraiment ceux qui vont y vivre, qui participent à toute son élaboration. On va en voir deux exemples qui n'ont pas et qui ne fonctionnent pas exactement pareil. L'habitat coopératif, c'est plus un habitat finalement où le concept essentiel, c'est le concept de coopération, je dirais presque un retour aux sources de la coopération d'il y a telles qu'elles ont été définies il y a 120 ans, en particulier au pays de Jaurès et à Carmaux. Hein, qui est effectivement quelque chose qui sort de la propriété, qui sort de ni propriétaire ni locataire, et où c'est élaboré, bon, en l'occurrence par des professionnels, et après Gaëtan nous expliquera comment les personnes intéressées pourront rejoindre le processus. Donc là, je ne vais pas m'étendre. Donc, on n'a pas tiré au sort, mais j'ai proposé qu'on passe par ordre chronologique de réalisation. Les Amarais, où maintenant le projet, de toute façon, ne comptait pas y trouver de place, tout du moins pour le moment, puisque tous les habitants y sont, hein, et que les listes d'attente, on souhaite que les listes d'attente soient très longues. Enfin, très lente plutôt. Ensuite, au Jardin de la Bastide et Coop à Vivre à Gaillac. Donc, la parole est aux Amarais. Donc, de présenter un peu le projet, comment c'est arrivé et où ça en est.
Oui, donc, les Amars, c'est un projet donc à Coufouleux, à côté de Rabastens, et qui est né il y a début 2018, donc maintenant un peu plus de 4 ans. Voilà, en fait, on a signé il y a seulement un an. On a eu les permis de construire il y a à peu près un an. C'est-à-dire que pendant les trois années qui ont précédé, ça a été de la préparation. On n'était pas il a fallu du temps pour être au complet, etc. Mais en tout cas, nous, notre particularité, c'est que on est passé par au Jardin de la Bastide, les sept premiers foyers à avoir fondé les amarres. On a suivi le lancement d'habitat participatif voisin au Jardin de la Bastide. Voilà, on est sorti à des moments différents pour diverses raisons. Mais en tout cas, il y avait toujours cette idée-là qui nous trottait en tête de créer quelque chose, peut-être de plus petit aussi, parce que nous, c'est 11 foyers. Contrairement au Jardin Bastide où ils sont 25 ou 30, je ne sais plus. Et l'autre grande différence, on va dire, c'est que voilà, nous, on ne s'est pas fait accompagner par une société spécialisée dans l'accompagnement de ces projets-là. On a vraiment construit, on va dire, de façon autonome notre projet. On s'est fait accompagner par un architecte pour la programmation du lieu, c'est-à-dire tout ce qui est le plan d'aménagement, etc. Et puis en fait, nous, notre force, je crois, ça a été le collectif, c'est-à-dire que on a assez rapidement trouvé des manières de prendre des décisions ou d'avancer, d'être réactif, parce qu'il y avait quelque part déjà des connaissances, des affinités aussi, même si on n'était pas amis au départ, hein, les sept foyers initiaux, on se connaissait comme ça la plupart, et assez rapidement on a trouvé un fonctionnement avec les différentes expériences dans l'associatif, notamment puisqu'on était tous, plusieurs à être engagés en tout cas, et donc il y a l'université du Nou par exemple qui a pu nous donner des clés, l'accompagnement par Abfab là aussi, et puis des livres de qui font référence dans l'habitat participatif, quoi. Voilà, et donc aujourd'hui il y a 3 ou 4 foyers qui habitent déjà le lieu, et les 7 autres, leurs maisons sont bien avancées, voilà, au stade définition ou autre. Et tout ce qui va arriver derrière, ce sera plutôt l'aménagement du terrain qu'on a déjà réfléchi, mais tout reste à faire, quoi. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile pour nous de faire visiter le lotissement, parce que il n'est pas du tout tel qu'on se l'imagine dans quelques années. Mais après, ça fait partie des choses qu'on... Quand on se lance dans ce type de projet, je pense on comprend qu'il va falloir du temps. Le principal truc sur lequel j'attire l'attention, c'est vraiment construire le collectif, quoi, la partie humaine qui est fondamentale, de mon point de vue, pour réussir un projet.
Bonjour, donc je suis Marion avec Basile, et donc je vais vous présenter le projet d'Au Jardin la Bastide, qui est à Coufouleux, donc sur la même commune que les Amarres. Donc c'est un projet qui est né... fin 2017, début 2018, via l'association Rabastinois en transition qui souhaitait lancer des projets d'habitat participatif. Et donc il y a des groupes d'habitants qui se sont réunis, puis deux projets qui ont émergé de ça, vraiment le projet Au Jardin la Bastide et le projet des Amarres. Au Jardin la Bastide s'est fait accompagner dès le début par une coopérative qui s'appelle APFAB, qui fait de l'accompagnement au montage de projets, et qui a aidé le groupe à se structurer, à la fois dans sa gouvernance et dans les partenaires qui sont allés rechercher. Et donc, dans les partenaires qui sont très vite rentrés dans le projet, il y a le COL, qui est un promoteur social. Donc qui fait de l'accession sociale à la propriété, au départ plutôt autour de Bayonne, et puis qui s'étend maintenant son activité sur l'Occitanie. Donc ce promoteur, c'est lui qui porte le projet immobilier, le risque immobilier très principalement. Et très vite aussi est arrivée dans le projet une équipe de maîtrise d'œuvre, donc des architectes, mais aussi tout un tas de bureaux d'études techniques, qui est conduit, ce groupement, par Marie-Christine Coutens, qui est une architecte toulousaine, qui est connue notamment pour un projet sur Ramonville qui a pas mal inspiré. Et cette architecte, elle a été proposée par les habitants et retenue ensuite par le promoteur social, le COL. Et donc, aujourd'hui, où on en est du projet, donc on est sur un projet où il y avait un terrain identifié, je crois, par le maire de Coufouleux, et très vite mis... au profit, on va dire, fléché pour ce projet d'habitat participatif. Donc c'est un terrain qui était un prêt avec des chevaux jusqu'à il y a encore quelques mois, donc qui est tout à fait nu, qui fait, j'ai un trou dans les chiffres, 2,5 hectares, et sur lequel vont être édifiés un habitat participatif de 30 logements, donc c'est déjà une somme, 30 logements, et accolé à ça, on va avoir 5 lots qui vont être vendus pour de la promotion individuelle, donc des foyers qui vont acheter pour construire leur maison. Et ça, c'est un montage qui a été trouvé pour permettre de dégager davantage de marge de manœuvre financière sur le projet d'habitat participatif. Donc sur le projet d'habitat participatif, c'est 30 logements avec une forte exigence de construction environnementale qui a été primée par à la fois un label bâtiment durable Occitanie, puis une subvention importante de la région Occitanie pour les performances énergétiques du projet. Et on en est aujourd'hui à une étape où le permis de construire est accordé, les entreprises qui feront les travaux sont connues, et donc on est en train de réserver nos logements pour que le chantier puisse démarrer là, on espère, dans les toutes prochaines semaines, pour qu'on aménage 2 ans plus tard, parce qu'on a à peu près 2 ans de travaux après. Et donc, pour les gens qui vont habiter là, donc 30 ménages, il y en a 4 qui seront en logement locatif social, avec a priori Tarn Habitat, qui est un bailleur social qui va acquérir 4 logements pour les mettre en location. Et les 26 autres logements seront acquis en accession sociale à la propriété via un montage qui s'appelle le bail réel solidaire, qui a une spécificité d'être un montage anti-spéculatif, c'est-à-dire que les logements ne pourront pas être revendus au-dessus du prix auquel on les a achetés, moyennant l'actualisation du coût de la vie, on va dire. Mais on est sur un montage où il n'y aura pas de plus-value immobilière et du coup, les futurs acquéreurs bénéficieront aussi d'une accession sociale à la propriété dans un logement de qualité environnementale et architecturale qu'on espère fidèle au plan qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà. Mais comme ce n'est pas construit, on ne sait pas encore. Et on est actuellement une quinzaine de foyers, donc il reste de la place. Parlez-en entre autres de vous, venez nous voir.
Bonjour, je m'appelle Gaëtan. Donc nous, on part un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est à la base des professionnels du bâtiment. L'idée, c'était de concevoir un lieu de vie avec des... de partir de compétences du bâtiment sur justement tout ce qui est environnemental et qualité, performance énergétique des bâtiments, et de s'adosser à un statut juridique coopératif qui s'appelle Société coopérative d'intérêt collectif pour concevoir un modèle économique et juridique qui nous paraît toujours d'ailleurs le plus adapté pour arriver à faire une opération immobilière ouverte au plus grand nombre en termes d'accession, en proposant quelque chose qui n'est ni de la propriété privée ni de la location. Voilà, donc ça s'appelle le droit d'usage. Pour ça, on s'est rapproché de grands frères. C'est une SIC qui s'appelle Atikora, qui est en Isère, qui fait ça depuis un certain nombre d'années, qui sont pas leur premier coup d'essai. Donc ça fait du bien d'avoir des grands frères avec nous qui ont pu, eux, s'affranchir carrément de l'emprunt bancaire, de la promotion immobilière sociale et tout ça, donc d'être vraiment autonomes sur leur projet. Nous, on ne peut pas, parce qu'on ne part pas avec un trésor, ce que eux avaient. Donc on aura un petit peu d'emprunt bancaire, mais l'idée, c'est vraiment de se baser plutôt sur la capacité des gens, quelle qu'elle soit, financière, de se baser sur la solidarité, l'épargne citoyenne, en proposant à des gens de devenir coopérateurs sans être spécialement des futurs habitants. Et on est accompagné aujourd'hui dans le cadre de Bien vieillir dans les petites villes de demain par la Banque des Territoires pour l'ingénierie financière. Donc on a créé, on n'a pas commencé par créer un collectif d'habitants, mais par un collectif d'entreprises, initialement des coopératives qui se connaissaient bien, qui avaient l'habitude de travailler sur la construction écologique. S'il y en a qui sont dans la région, ils connaissent peut-être la tournée du coq, l'âge du bois et Cosimut, enfin voilà. Et donc de sortir tout ce qu'on avait comme compétences, comme expérience pour le concrétiser sur un projet qu'on allait tous porter en étant aussi sociétaire, coopérateur de cette coopérative. Donc tout le monde et après, au travers de la coopérative, c'est mettre des collectivités locales, de mettre des habitants, de mettre des citoyens, de mettre des entreprises, de mettre des militants et de définir le projet ensemble. Donc nous, aujourd'hui, on a un terrain qui nous a été attribué par la ville de Gaillac. Donc on est en cours d'acquisition au niveau du notaire, mais la ville de Gaillac a voté la vente à Copa Vivre Association. Aujourd'hui, c'est une association, la 1901, qui porte l'accompagnement du projet. Voilà, on a une bonne idée de à quoi ressemblera le logement derrière, vu qu'on a travaillé avec une architecte qui fait partie du collectif. Et bientôt, on va le présenter au public le 30 juin. Bon, c'est déjà accessible sur notre site internet si vous allez voir, mais on aura une explication par l'architecte le 30 juin. Et donc, on en est à l'étape où on crée le collectif d'habitants qui va s'approprier le projet pour définir les règles de vie, les règles d'attribution, les règles de fonctionnement entre tout ce qui va être partie individuelle et partie collective. Voilà. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur le projet pour le moment, mais on est ouvert aux questions.
Maintenant, je vais un peu vous questionner pour apporter certaines précisions que je connais et que et donc je vais faire un tour de rôle. Donc au niveau des amarrés, donc tu as dit vous êtes 11 familles, donc vous avez choisi une double articulation de propriété privée et de propriété collective.
Oui, alors
la parole est à la défense.
Voilà, je l'ai pas dit dans la présentation. On a fait un appel à des notaires également qui avaient déjà une expérience d'habitat participatif, et parce que on souhaitait un montage juridique personnalisé finalement. Et ce qui nous a convenu le mieux, ça a été de créer une société civile immobilière, donc ça c'est assez commun, une SCI, qui était propriétaire de l'ensemble du commun. Il faut savoir que nous on a un terrain d'un hectare 3. Et les deux tiers du terrain sont la propriété de la SCI. Et ensuite, on a donc chaque foyer a une parcelle de 310 mètres carrés sur laquelle il est autonome pour construire sa maison avec un cahier des charges. Voilà, maison bioclimatique. On préconise vraiment des matériaux biosourcés, etc. Mais en même temps, une certaine souplesse. On souhaitait pas non plus être dans quelque chose qui venait bloquer des envies particulières. Par exemple, un des foyers qui veut avoir un non, c'est un mauvais exemple, oublié. Donc j'étais sur le montage juridique. Voilà, donc on est propriétaire de notre parcelle individuelle et sociétaire de l'SCI. Et les 11 foyers ont le même nombre de parts de SCI. Et on a aussi fait en sorte de lier la propriété de parts de SCI avec le logement pour justement prévenir la sortie d'un foyer. C'est-à-dire que si un foyer décide de partir et de vendre, eh ben en fait il peut pas vendre au premier venu. Finalement, il y a une cooptation, un processus pour intégrer le foyer, où la SCI finalement a aussi son mot à dire, en tout cas sur la première candidature. Elle peut bloquer une demande d'un foyer qui ne serait pas du tout dans les valeurs du projet, parce que effectivement, ce qu'il faut savoir quand on se lance dans ce type de projet, c'est que au démarrage, tout fonctionne bien puisque on est dans un idéal et puis il y a une vraie envie, hein. Mais il faut aussi imaginer que il va y avoir des tensions, il y en a déjà eu, il va y avoir des désaccords profonds, etc. Et donc par rapport à ça, ça nous paraissait important, voilà, de dire, chacun est libre de partir, bien sûr, mais il y a des conditions dans lesquelles pour que ça se passe pour le mieux pour tout le monde. Et en fait, on a une phase de 6 mois, ça nous a paru le plus acceptable pour dire, pendant les 6 mois, finalement, si on a le vendeur qu'on a proposé n'a pas convenu au collectif, le collectif peut chercher quelqu'un pour acheter. Après, voilà, le prix, c'est toujours difficile parce que nous, on n'est pas sur un régime qui prévient de la spéculation, mais voilà, c'est plus dans notre idéal et dans notre mais il y a pas de choses qui viennent bloquer ça, et donc le collectif peut très bien trouver un autre foyer de façon à libérer, enfin ne pas que le foyer qui veut sortir reste finalement bloqué dans cette position où il n'arrive pas à vendre parce que il trouve pas de d'acheteurs qui correspondent au collectif.
Une précision par rapport à l'espace collectif qui comporte d'abord, d'une part, un bâtiment, une ancienne vieille maison, et d'autre part, du terrain, qui sont donc par la SCI propriété commune. Et la maison, à quoi sert-elle? Et le terrain, comment va se faire l'aménagement?
Alors voilà, donc une autre particularité du projet, c'est que on a acheté un terrain avec une maison existante, une grande maison, 400 mètres carrés sur deux niveaux, avec quatre chambres, un ancien studio qu'on a transformé en salle d'activité où se déroulent tous les soirs de la semaine des activités ouvertes vraiment à tous les habitants du territoire et animées par des intervenants extérieurs, hein, voilà, yoga, capoeira, chorale, etc. Et la maison, en fait, on l'a imaginé vraiment comme une extension de nos maisons et puis bien sûr comme le lieu de retrouvailles. Donc ça veut dire que concrètement, moi, je construis une maison de 68 mètres carrés, sans chambre d'amis et voilà, en me disant si j'ai besoin d'accueillir de la famille ou des amis, ce sera dans la maison commune. Et voilà, après, donc là, il y avait des habitants qui construisaient leur maison, qui logeaient dans la maison commune contre un loyer. Et de la même façon, quand on a besoin, nous, d'héberger des personnes dans cette maison, voilà, il y a un tarif. Même les propriétaires de la SCI, on participe, en fait, aux charges courantes, etc. Donc, 7 euros par nuit, par chambre, en fait. Donc, voilà, ça nous a semblé un équilibre, quelque chose d'assez équilibré. De la même façon, le studio, voilà, on le loue aux personnes qui proposent l'activité, 4 euros de l'heure. Voilà. Et cette maison commune, bien sûr, ça a été un gros plus puisque c'est par là qu'on a commencé, en fait. Dès lors qu'on a eu les clés de la maison, on s'est attelé finalement à rénover cette maison qui ne nécessitait pas de gros travaux. Mais voilà, on a refait l'électricité, par exemple, on a mis la prise terre, on a mis du bâtiment à chaud à la place de vieilles tapisseries qui étaient un peu dégueulasses, etc. Et voilà, on a rafraîchi les chambres, pareil pour le parquet, etc. Et cette maison-là, c'est vraiment notre repère finalement où on se retrouve spontanément, on va envoyer des messages aux uns aux autres pour organiser une soirée jeu ou célébrer les anniversaires, etc. Et puis voilà, on a à cœur aussi de pouvoir mettre à disposition cette maison à terme, lorsqu'on habitera le lieu et que ce sera un peu moins en mode chantier. On aimerait bien aussi que ça puisse servir aussi à des associations on fait déjà aussi, on accueille des résidences d'artistes aussi, donc on peut faire des hébergements comme ça, etc. On fait de la location aussi, voilà, courte, moyenne durée, et voilà. Et puis pourquoi pas aussi, si on peut héberger des personnes dans le besoin, etc., ça fait partie des idées ou des projets. Ouais.
Je reviendrai sur les terrains. Donc, au jardin La Bastide, justement, l'articulation, la conception dont a été faite avec le COL, Comité Ouvrier Logement, qui est un organisme d'habitat social héritier, pour ceux qui ont connu ça dans leur jeunesse, des castors, qui étaient des coopératives ouvrières d'autoconstruction. Le COL a conçu, ensuite le groupe au Jardin de la Bastide a quand même aussi accompagné la conception. Et là, effectivement les espaces communs, c'est-à-dire ce que vous avez, ce que vous appelez l'agora et les espaces verts, puisqu'il y en a beaucoup, comment vous allez fonctionner et définir leur fonctionnement?
Oui, donc effectivement, sur ce projet qui a vraiment été co-construit entre le COL et l'association d'habitants, on a été impliqués dans toutes les décisions les choix du projet, et on a aussi tenu un certain nombre de choix face au COL. On est vraiment dans de la co-construction. On a donc les 30 logements, j'en ai parlé, mais on a aussi un certain nombre d'espaces communs, donc beaucoup d'espaces verts, 5000 m² de jardins potagers, de vergers potagers, qui seront aménagés. On aura les bâtiments d'habitation sont distribués autour d'une place centrale qu'on appelle l'Agora, qui sera un espace piéton, un lieu de rencontre qu'on aménagera quand on sera sur place. Pour l'instant, on n'a pas encore finalisé les choix par rapport à ça, mais ça sera un lieu de rencontre ouvert et végétalisé au cœur du projet. On a en commun aussi d'autres espaces verts de prairies et de forêts à aménager. Et surtout, on a une maison commune avec une pièce de vie de 50 mètres carrés qui sera, on l'espère, notre foyer, comme est la maison au sein des Amars, mais vraiment le lieu de retrouvailles où on a des événements collectifs entre nous, mais aussi et peut-être surtout ouvert sur l'extérieur. On est encore en réflexion aujourd'hui sur... et de toute manière, les choses ne pourront se préciser que quand on sera sur place et qu'on aura l'espace avec nous. Mais on est en réflexion sur les activités qui seront accueillies, la place qu'on pourra laisser aux activités conduites par l'extérieur, etc., etc. On a d'autres espaces mutualisés qui sont des buanderies, des chambres d'amis aussi, donc sur lesquelles il y aura certainement un tarif de location à la nuitée, mais tout ça, ça fait partie des choses qui... où la réflexion n'est pas aboutie à ce jour. Et on a un autre espace qu'on appelle le grenier, qui est un espace qui aura certainement vocation plutôt à accueillir des activités calmes, mais qui est un espace commun bâti d'une trentaine de mètres carrés aussi. Et on a des locaux à vélo, deux locaux à vélo avec des espaces qu'on pourra utiliser aussi peut-être comme espace de stockage. Mais là, le gros du travail aujourd'hui, ça a été de définir les gros volumes, on va dire, de travailler un peu plus finement le plan des logements pour qu'ils correspondent à nos attentes et à ce qu'on projette de ce qui pourrait convenir à ceux qui ne sont pas encore là. Et là, il y a vraiment un temps où c'est difficile d'anticiper des usages sur des espaces qu'on n'a pas encore devant les yeux. Donc on rêve beaucoup, on écrit beaucoup de choses, mais je crois que les choses se figeront quand on sera là. Dans le projet aussi, ça n'a pas été dit, mais il y a une volonté de mixité générationnelle. Et donc, on a volontairement essayé de limiter les candidatures de seniors qui étaient les plus abondantes au début des projets. Et donc, on les a limitées pour laisser de la place aux familles, aux jeunes, avec ou sans enfants. Et donc... aujourd'hui, on a un groupe qui est assez équilibré, assez diversifié en termes de profil, d'âge, d'origine géographique et professionnelle. Voilà, on espère que cette diversité-là va se continuer à se nourrir avec les habitants qui vont rejoindre le projet dans les mois qui viennent.
Vous êtes sur Radio Albigès, 95.4 et 104.2 FM. Et vous écoutez une conférence enregistrée à Biocibel 2022 intitulée « Habiter autrement ».
Gaillac, Cop à vivre. Donc en fait, moi je retiens déjà que j'anticipe sur la réponse de Gaëtan que de toute façon il y a toujours la notion à la fois de l'espace individuel et de l'espace collectif. Hein. Et bon, sur Gaillac, la différenciation du départ d'une démarche professionnelle vers une démarche partagée, je dirais. Par rapport justement à cette définition des espaces individuels et de l'espace collectif, comment vous procédez, comment vous allez procéder au stade où vous en êtes?
Alors, donc nous aussi, le projet est parti de la problématique de l'intergénérationnel, effectivement, et de ce qui est proposé aux seniors, mais ce qui est proposé aux personnes à mobilité réduite, ce qui est proposé à quelqu'un qui a pris une claque dans la gueule un jour dans la vie et qui se retrouve tout seul avec ses enfants, homme ou femme, et de regarder aussi un peu la typicité de la population aujourd'hui sur notre territoire. Et donc, c'est comme ça qu'on a conçu les espaces de vie et la répartition du nombre de T1 bis, de T2, de T3, de T4, éventuellement T5, sans définir non plus de manière arrêtée. C'est-à-dire qu'on a dû aller dans la conception de tout ça pour pouvoir commencer à avoir des éléments chiffrés, pour pouvoir se projeter aussi sur un modèle économique. On a aussi réfléchi que dans un village, il fallait, alors il y en a qui le nomment l'agora, nous c'est des espaces partagés, et que ce serait bien d'avoir, on sait que 87% des logements dans le Tarn sont surdimensionnés par rapport à leurs occupants, ils ont au moins une pièce en trop. Pour remédier à ça, comment on fait? Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir une chambre d'amis chez soi? Aux Amars, ils ont résolu le problème, en tout cas, toi tu l'as résolu, en disant, ça vaut peut-être pas la peine d'avoir une chambre d'amis qu'on paye toute l'année, alors qu'on pourrait en avoir une pour tout le monde. Et comme on se projette à une vingtaine, entre 20 et 25 foyers sur le lieu, nous on a un hectare de terrain, donc on a conçu une pièce, une maison commune, qui est à moitié ouverte, à moitié fermée, et à l'intérieur, il y a des pièces communes pour la vie, puis il y a un local pour une profession libérale qui peut être mise à disposition. Il y a un espace de télétravail aussi pour encourager les jeunes à venir bosser, à venir habiter là. Et puis un appartement partagé. Il y a toute une partie de garage couvert aussi avec un habitat, un garage à vélo. Et puis la partie jardin dans le bas avec une petite mare et puis un hangar et un atelier partagé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai perdu mes idées, mais...
Oui, bon, c'est...
Oui, la chambre d'amis, oui, il y a l'appartement partagé, quoi, qu'il y a un T4 mis à disposition. Par contre, nous, notre rôle, il s'arrête là. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une location, pas de location? Est-ce que, comment on utilise le potager, les aires, il y aura combien de mètres carrés de potager sur les, vous voyez, on a 9500 mètres carrés de terrain, à peu près, et on a 1600 mètres d'artificialisation. Le reste, c'est ouvert. Donc, comment est-ce qu'on gère tout ça? Ben, ça, c'est le collectif qui doit le faire. Nous, on a une petite idée, on proposera des choses, mais c'est le collectif d'habitants qui doit le prendre en main. C'est plus notre rôle à nous. Nous, on vérifiera, et c'est là que je vous dis la différence entre le coopératif et le participatif. Nous, on est plutôt consultatif, c'est-à-dire qu'on veut que le collectif se positionne, qu'une majorité puisse poser ou prendre une décision, et nous, on vérifie que par rapport à la faisabilité du projet dans des délais qui nous paraissent raisonnables, on y arrive ou on n'y arrive pas. Voilà. Et ben voilà.
Bon.
L'appartement partagé, c'est comme la maison partagée, c'est-à-dire que c'est un lieu de vie qui est puis mis à disposition de tout le monde. Moi, il y a aussi un truc qui me tient vachement à cœur, mais ce sera au collectif de le décider. Mais je trouve qu'à 23, on pourrait tous prendre en charge un T1 ou un T2 à l'année pour créer un logement d'urgence. Il y a des besoins, on est sur le territoire avec des situations dramatiques où on a besoin de reloger une madame ou un monsieur qui est dans une situation de danger ou...
Obligatoirement des Ukrainiens.
Pas, voilà, non, mais ça peut essayer de ça, mais moi j'avais calculé autrefois que grosso merdo c'est 20 € par foyer par mois. Ben, est-ce qu'on peut faire cet effort-là pour dire que celui-là on le sort de notre calcul de rentabilité, il peut être mis. Je mettrai ça sur la table, c'est le collectif qui décidera. Moi personnellement je me projette pas comme habitant sur ce lieu-là. C'est vraiment deux choses différentes dans mon action militante et un peu entrepreneuriale quand même.
Voilà, bon, moi je poursuis l'interrogatoire des inculpés.
La particularité, c'est que c'est la société qui est propriétaire du bien immobilier et les coopérateurs sont propriétaires de la société qui détient. Donc ça permet de... Alors la coopérative permet d'avoir tout le monde autour de la table, aussi bien des entreprises que des habitants, que des collectivités, que des citoyens, et d'acquérir ces parts sociales, le maximum de parts sociales qu'on peut acheter, c'est la valeur pécuniaire du bien qu'on veut, enfin du logement qu'on veut habiter. C'est la limitation. Mais psychologiquement, on achète des parts sociales d'une coopérative qui détient un lieu parce qu'en fait, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est d'en faire plein, en tout cas un maximum. Et donc, comptablement, mettre en haut de bilan, si vous avez fait de la comptabilité, mais une immobilisation importante, ça permet de générer d'autres projets. En fait, l'argent devient d'une dynamique et la dynamique d'autres projets. Et donc, on arrive à en générer d'autres derrière. Et ça, c'est vraiment ce que nous, on a envie de faire.
Moi, je voudrais poursuivre. Je reviens là sur. Les amarras, pour le moment, je vous laisse un peu de côté puisque vous êtes complet, vous affichez complet. Hein. Au jardin de la Bastide, là, au stade où vous êtes, avec encore une partie déjà a priori affectée, une partie disponible. Les personnes, suivant les deux modalités que tu as parlé, c'est-à-dire accession sociale à perpétuité ou à côté, un lotissement libre, je dirais. Hein. Ils achètent le bâtiment, mais pas le foncier. Le terrain reste à la colle. Hein, et ils achètent le bâtiment et ils payent une redevance foncière mensuelle. Et donc, au stade où vous êtes, les plans ont été déposés. Plus que candidat, vous allez maintenant passer à la réservation. Donc, comment ça se passe?
Alors, effectivement, il y a deux questions. Il y a une question sur le montage juridique et comment fonctionne le bail réel solidaire. Là, donc, j'en dirai un mot juste après. Mais il y a une autre question sur à quelle étape du projet on est. Donc, effectivement, là, les plans sont connus depuis déjà plusieurs mois. Et là, la grande nouvelle pour nous, c'est qu'on a connu... Il y a deux semaines, je crois, trois semaines maximum, les prix de nos logements. Jusque-là, on avait encore des grosses interrogations. Tant que le dépouillement des offres faites par les entreprises qui réaliseront le travaux, tant que ce dépouillement-là n'avait pas été complètement abouti et les négociations complètement finalisées, on ne connaissait pas les prix de nos logements. Donc on savait qu'il y avait un maximum qui est fixé par la loi, mais on ne savait pas quel était le prix de nos logements. Et donc là, depuis quelques semaines, on le connaît. Donc, et en plus, il est plutôt... il est plutôt un peu en dessous de nos estimations pessimistes. Non, je ne sais pas comment dire, mais voilà, on a plutôt eu une bonne nouvelle sur les prix finaux qui ont été annoncés. Donc, si vous voulez un ordre de grandeur, on est à 2104 euros du mètre carré de surface habitable. Mais effectivement, quand on va acheter nos logements, on achète le bâti, mais on ne devient pas propriétaire du foncier. Le foncier va rester ad vitam aeternam, propriété du COL, qui s'est pour cela structuré en ce qu'on appelle un organisme de foncier solidaire, un OFS, dont la vocation est de porter du foncier pour faire de l'accession sociale à la propriété. Et donc, on n'achète pas le foncier. Donc, ça vient aussi jouer au bénéfice du prix de vente, puisque le prix du foncier sur notre projet, il est de l'ordre de 500 euros du mètre carré quand même. Donc, ça fait autant de rabais pour nous à l'achat. Donc, on ne l'achète pas. On a des droits d'usage qui sont équivalents à ceux du propriétaire. Mais par contre, on va payer chaque mois une redevance foncière qui est de un peu moins d'1,50 € par mètre carré, pour permettre au COL de rembourser l'emprunt qu'il a souscrit à la banque pour acheter le terrain, on va dire. Et donc, cette redevance foncière, on va la payer pendant 50 ans. Donc, autant dire, même les plus jeunes du projet ont peu de chances de passer à l'étape d'après, parce que 50 ans, c'est quand même long. Si, nos descendants, nos enfants peuvent hériter de notre bien, hein, donc nos descendants pourront en hériter et ne pas payer cette redevance foncière au-delà des 50 premières années d'occupation du logement. Et du coup, c'est aussi ce montage-là, via l'organisme de foncier solidaire et le bail réel solidaire, que l'encadrement des prix de revente se fait. Puisque l'organisme de foncier solidaire, qui est le COL en l'occurrence, doit valider chacune des cessions qui se feront plus tard. Et ces cessions sont encadrées par, je ne sais plus quel article du Code de l'urbanisme, mais qui fixe des prix plafonds pour les ventes sous forme de bail réel solidaire. Voilà. Et ces prix plafonds, ils sont associés à des plafonds de revenus des ménages, c'est-à-dire que pour venir dans le projet, il faut toucher moins que, j'ai plus les parts en tête, ça dépend selon la taille du ménage, mais voilà, on a aussi des plafonds de revenus qui sont en face pour permettre à des ménages classe moyenne supérieure, on va dire, d'acquérir à la population, d'accéder, oh là là, je perds mes mots, il fait trop chaud, d'accéder à la propriété.
Pour les modestes et les
salaires. Non, c'est pas pour les modestes et très modestes, on est sur des tranches, on est sur le 6e décile, 7e décile. Bon, ça te parle pas, je sais pas comment le dire, je sais pas le vulgariser maintenant, je suis désolée. C'est quoi les plafonds de revenus? Nous, pour une famille de 4, il faut toucher moins de 42 000 euros de revenus annuels. C'est quand même...
De revenus fiscal.
Ouais, 70 ou 80% de la population.
De revenus fiscal.
Oui.
De revenus fiscal.
Quoi?
Ben, c'est le revenu annuel. C'est
revenu annuel. Revenu fiscal de référence, c'est celui-là. On regarde. Les chiffres exacts, on les a sur un tableau, je ne les ai pas tous en tête, mais on pourra vous les donner.
De toute façon, vous pouvez aller sur le site au Jardin de la Bastide, ils ont tout mis en ligne. Et, voilà.
et il pourrait y avoir dans les tout prochains mois quelques ventes sur une autre grille de prix et un autre modèle qui s'appelle l'accession sociale à la propriété. Où là, on devient pleinement propriétaire du bâti et du terrain. On est sur une TVA à 20%, alors que sur l'accession sociale, on est à une TVA à 5,5%. Et ça s'adresse à une tranche de revenus encore supérieure, avec des prix de sortie qui sont eux aussi bien supérieurs, puisqu'on acquiert tout d'un coup avec une forte TVA. Enfin, forte, TVA à 20%. Et voilà. Mais ça devrait exister aussi pour permettre aussi un peu de mixité sociale vers les hauts revenus.
Voilà, donc moi, je poursuis sur Gaillac. Donc, en fait, expliciter le concept où va les sous, qui apporte quel sous. Et d'abord, bon, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc, qui ont été créées en 2001, pardon, et pour permettre de réunir différentes catégories de sociétaires, et en particulier les collectivités. C'est la grande nouveauté qui ne peuvent le tout par collège et de manière à ce qu'aucun collège, que ce soit bon, des entreprises, que ce soit une épargne citoyenne, que ce soit les habitants futurs, que ce soit les collectivités, ne puisse avoir à elles seules le pouvoir. Et en fait, bon, ma question, Gaëtan, donc les parts sociales de personnes candidates ou de personnes qui veulent placer, enfin, on parlera de l'épargne citoyenne après, si tu veux bien, donc c'est par ces versements, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce que la personne, une fois dans les lieux, selon les versements et les apports qu'elle a pu faire, qu'est-ce qu'elle paye tous les mois, et lorsque elle veut partir ou lorsque elle n'est plus là parce qu'elle est arrivée au terme de son voyage sur Terre, qu'est-ce que tout ça devient.
Donc, j'ai bien du son. Bon, donc du coup, effectivement, l'idée c'est d'acheter des parts sociales, un nombre de parts sociales, in fine, qui correspondent au montant de la valeur du bien, du logement. Pas du bien, du logement. On peut acquérir ce droit d'usage en une fois. J'ai vendu ma maison, mes enfants sont partis, on a besoin que mon époux ou mon épouse a un plus petit logement, et donc un T2 nous irait très bien. Et donc on a vendu notre maison, on a un patrimoine, on vient et on achète le droit d'usage. Ça devient un nombre de parts de propriété d'une coopérative qui détient le bien immobilier. À ce moment-là, la personne a acquis son droit d'usage. Il y a des frais de fonctionnement liés à la copropriété qui sont mis en place de manière mensuelle. Bon, ça, c'est comme toute copropriété. J'imagine que les charges sont les mêmes, même fonctionnement n'importe où qu'on soit. Je démarre dans la vie, j'ai un salaire ou un revenu, pas spécialement un salaire, mais j'ai un revenu. Je voudrais acquérir un T1, ou en tout cas y habiter, mais ce sera mensuellement. Et donc en fait, on a une redevance qui est versée, qui comprend une partie d'achat du droit d'usage, qui correspond à la valeur du droit d'usage, calculée sur 30 ans, et puis divisée par 12, et puis les charges. Et dans ce calcul du droit d'usage, il y a aussi la coopérative va devoir, elle, emprunter de l'argent pour pouvoir payer les entreprises, parce qu'il y a un moment où les ouvriers, les coopérateurs des entreprises, il faut qu'ils mangent aussi. Donc on va payer les travaux, pour payer les travaux on va emprunter de l'argent, et on va emprunter de l'argent à deux personnes, deux catégories, mais t'as dit qu'on en parlait après, l'épargne citoyenne et la banque. Et donc ça coûte de l'argent, donc ces gens-là devront aussi prendre en charge les coûts d'emprunt, les intérêts d'emprunt, voilà. S'ils restent 30 ans, ils ont fini leur droit d'usage, le droit d'usage est fini, voilà, ou à un moment, heureux, la vie va bien, j'ai un peu d'épargne, je veux remettre 10 000 euros dans la, voilà, et ça va plus vite, ben, systématiquement, tout ce qui a été versé une fois par an est transformé en titre de propriété, en part sociale. C'est-à-dire que si une personne qui n'a pas trop les moyens aujourd'hui d'acquérir son bien rentre dans la coopérative, reste 5 ans, c'est la vie, et ben après 5 ans, elle s'en va. Et ces parts sociales sont remises sous forme de valeur monétaire. Pareil que vous, on prend en compte l'évolution du prix de la vie, parce qu'un euro d'aujourd'hui ne vaut pas un euro de dans 5 ans, ou dans 30, pire, dans 30 ans. Et puis la personne repart avec son pactole. Cette épargne, elle n'est pas disponible comme ça du jour au lendemain, parce qu'on ne peut pas mettre en difficulté l'ensemble de la coopérative pour l'intérêt de un. Donc dans les statuts, on définira ça tous ensemble, mais c'est généralement bloqué 7 ans. Mais en gros, c'est 4 ans, pardon. Quand une personne va rentrer, si on arrive à avoir une nouvelle personne qui prend le bien, ben, soit elle vient avec sa capacité mensuelle. Si c'était une personne qui était mensualisée aussi, ben, ça va prendre le relais sur l'emprunt, et donc on peut rendre le capital qui aura été versé. Donc nous, on a réparti. Idéalement, il faudrait que 30% des personnes qui arrivent sur le lieu puissent acheter leur droit d'usage en une seule fois, et puis 60% en accession temporaire. Voilà. Et l'idée, c'est quand même de faire de l'accession sociale aussi. Alors, on a des discussions avec le COL aussi. On est accompagné par les Colibris, qui sont un peu une référence là-dedans, et puis par la Banque des Territoires. Et l'idée, en fait, c'est que la société emprunte sur du très long terme, de manière à ce qu'il y ait une et demie ou deux générations d'habitants qui remboursent en fait l'emprunt bancaire de la coopérative. Donc, on puisse avoir des mensualités qui soient plus douces, parce que nous, l'idée, c'est de faire de la construction écologique en filière courte, que le prix soit juste pour tout le monde, hein, aussi bien que les entreprises que pour les particuliers. Et donc, on sait que sur de l'habitat passif comme ça, ou quasiment, bah, on est sur des taux avec l'acquisition du foncier, des prix au mètre carré qui sont importants. Mais si on utilise les moyens économiques et juridiques et financiers qui sont mis à notre disposition, bah, on peut adoucir adoucir les choses. Voilà. Ah oui, alors il y avait une question quand même. Si, c'est la fin de vie. Les parts sociales d'une coopérative d'intérêt collectif ne sont pas cessibles. Donc, en cas de décès d'un habitant, même principe, on rend en liquide les parts de la somme et la somme rentre dans la succession. Mais le bien immobilier ne rentre pas, les parts sociales ne rentrent pas dans la succession. Voilà.
C'est-à-dire que les héritiers
récupéreront la valeur
récupère la valeur des parts sociales suivant les modalités.
Tout à fait.
Voilà.
Hein? Non, ouais, là, par contre, ce sera pas bloqué.
Et s'ils le veulent à ce moment-là, mais non pas en tant qu'héritier, mais en tant que personne, peuvent éventuellement rentrer dans la chose.
Voilà. Ils peuvent rentrer dans la chose parce qu'ils auront récupéré une valeur financière. Et ça, ce sera le collectif qui décidera aussi comment est-ce qu'on accepte ou on refuse si on a une file d'attente, comment ça se passe la succession derrière. Voilà.
Voilà, donc là, question complémentaire, quand même l'épargne citoyenne, hein, parce que ben justement l'épargne citoyenne, on est dans un lieu avec un public qui peut être sensibilisé à ça.
Ben oui, en fait, donc on a scindé deux choses aussi dans le projet. C'était pas le cas au début, mais on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres collectivités ou d'autres collectifs qui pouvaient être intéressés par notre concept. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que tout ce qui était ingénierie, quoi, financière et juridique, qu'on est en train de mettre en place là maintenant ou qu'on finalise là maintenant, devrait être du bien commun. Donc, on a sous forme d'association loi 1901, on conçoit tout ça. Donc, on cofinance avec du crowdfunding, avec des dons. Vous êtes les bienvenus, avec des adhésions. Donc venez, en plus c'est défiscalisé, et donc c'est grâce à ça qu'on arrive à concevoir de la matière qu'on pourra après donner à d'autres projets, comme fait Atikora aujourd'hui avec nous, en un finançant parce qu'ils ont de l'argent, donc ils nous donnent un peu de trésorerie, mais en plus ils nous donnent énormément de matière pour ne pas devoir réinventer les choses. Et voilà. Et donc ça c'est la première des parties où on a besoin de l'épargne citoyenne, mais après, une fois que la coopérative sera créée, il y a des gens qui nous disent, ah, comment je peux investir dans le projet? Investir dans le projet pour avoir un gros nombre de parts sociales, c'est pas intéressant et ce sera pas possible. Les parts sociales, la majorité des parts sociales doit être appartenir aux habitants. Par contre, en tant que citoyen, je peux prendre une part sociale dans la coopérative, ce qui me donne droit à un compte courant d'associé sur lequel je peux verser mon épargne. Et ces comptes courants d'associés sont réglementés et sont rémunérés. Donc c'est mieux. Déjà là, votre argent qui dort sur vos comptes épargne et qui sert à rien, on leur donne du sens. Et puis, il y a un petit peu plus de rémunération qu'un 0,25 sur un livret A. Donc voilà, c'est un peu chic. Mais ça ne doit pas représenter plus de 30% du financement global du projet. Voilà. Mais ce qui, à l'échelle de nos projets, représente tout de suite des montants importants, parce qu'on dépasse le million sur l'épargne citoyenne à mobiliser. Mais voilà, en fait. Et comme les petits ruisseaux font des grandes rivières, tous ensemble, on devrait y arriver.
Vous êtes sur Radio Albigès, 95.4 et 104.2 FM, et vous écoutez une conférence enregistrée à Biocibel 2022, intitulée « Habiter autrement ».
D'être clair, parce que des fois je comprends, puis des fois je comprends. Donc les résidents sont actionnaires.
Oui. Ils sont coopérateurs, mais c'est pareil, oui, mais c'est actionnaire.
Ils
c'est
sont sociétaires. Et donc est-ce qu'ils ont tous le même nombre de parts?
Non.
Ou en fonction de leur rapport de départ?
Non.
En fonction du capital qu'ils donnent, ils ont un
non.
nombre d'actions?
C'est des fractions de 100 euros en fait. Une part sociale c'est 100 euros.
D'accord.
Et si leur bien vaut 30 000 euros, ce sera autant de parts sociales de 100 euros. Et soit ils ont ça d'un seul coup, soit ils l'ont au fur et à mesure de la vie. Par contre, c'est une coopérative. Donc le capital ne donne pas droit. C'est pas parce qu'on a plein de capital qu'on a plus de force que quelqu'un d'autre.
Voilà, c'était ma question.
Donc on est dans un fonctionnement d'une coopérative d'intérêt collectif qui fonctionne avec le principe de un homme, une voix à l'intérieur d'un collège. En fait, dans une société coopérative, il y a deux collèges qui doivent être représentatifs. C'est s'il y a des salariés, les salariés, et s'il y a des bénéficiaires, les bénéficiaires. Donc il faut qu'il y ait au moins un bénéficiaire, et s'il y a un salarié, au moins un salarié qui est actionnaire. Nous, il n'est pas prévu qu'il y ait de salariés à court terme dans la coopérative, peut-être dans l'association, mais pas dans la coopérative. Et après, l'idée, c'est d'avoir, par exemple, si on a 23 habitants et une collectivité locale, la collectivité locale va dire non, moi jamais je pourrais lever la main et être écouté, en fait c'est pas possible, vous m'enlevez tout droit, tout pouvoir. Donc on crée des collèges, dans le sein d'un collège on met les 23 foyers, les 23 foyers peuvent voter entre eux, et donc ce sera un homme une voix à l'intérieur du collège, et après les collèges, s'il y a 5 collèges, et c'est 20% des voix sont redistribuées. entre les cinq. Et donc ces cinq collèges éliront en leur sein un représentant qui prendra les décisions coopératives. Voilà.
Merci.
J'aimerais qu'on aborde l'aspect mieux vivre au quotidien, qui se projette, qui se rêve dans l'imaginaire et déjà dans le concret, dans chacun des trois collectifs. Parce que là, bon, on a beaucoup passé en revue la question du montage financier, foncier, etc., etc. Très bien. Mais en définitive, qu'est-ce qui nous attire à vouloir vivre une aventure humaine ensemble et qu'est-ce qu'on met là-dedans, quoi. Je dis nous parce que je fais partie de l'un des trois projets.
J'ai le micro en main, je continue. Ok, donc quand même particularité chez nous, c'est que à la base, on n'a pas rêvé un lieu de vie pour nous, mais un lieu de vie pour les autres. Et moi personnellement, je me suis pas mal référé à ce que j'imagine de mieux pour ma maman dans un lieu comme celui-là. Moi, en vivant dans un village où on a réussi à remettre un peu de sens. Et j'ai l'habitude de donner cet exemple-là, c'est que par exemple, moi j'ai de la force et Gabi, il a plus de force. Par contre, Gabi, il sait faire des tomates et moi, je sais pas faire des tomates. Donc voilà, où je me projette. Je suis tout seul le soir, il faut que j'aille faire les courses, mon épouse rentre tard, les enfants sont bien au jardin, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut garder un œil sur les enfants pendant que je vais faire les courses, et moi ça m'enlève de la charge mentale et mon épouse elle n'est pas la pression de rentrer à fond parce qu'elle travaille un peu tard ce soir là. Mais c'est toutes ces choses là en fait qu'on veut pouvoir remettre au centre de ce lieu là. Alors non pas en créant un ghetto super chouette au sein d'une ville, hein. Nous l'idée c'est d'avoir quand même un éco-hameau qui soit ouvert sur le reste de la ville. On est au milieu d'un quartier résidentiel, donc ça c'est très important, on veut avoir des liens avec l'extérieur. Voilà, et j'avais une autre idée que j'ai perdue aussi, mais ça c'est voilà, c'est pas grave.
Alors nous, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Je sais pas. Non, en fait le vivre ensemble on l'expérimente déjà en fait, parce que dans le groupe on se réunit une fois par mois pour travailler ensemble, pour avancer sur tout un tas de choix dans le projet. Et donc c'est des lieux très forts où en fait nous, la plupart d'entre nous, quand on pense à ce projet et à ce qui nous retient dans ce projet, bah, c'est les rencontres humaines en fait, les liens qu'on a tissés avec les uns et les autres. Personne ne se connaissait, tout le monde est arrivé là parce qu'il y avait ce projet. Je pense qu'il y a très très peu de personnes qui se connaissaient avant. Il y a quelques-uns qui ont ramené un ami, mais bon, globalement le groupe il s'est constitué autour de ce projet-là et aujourd'hui on a des liens qui nous unissent, qui sont forts. Donc on se voit une fois par mois, on se voit aussi en sous-groupe régulièrement pour des réunions de travail et on voit déjà ces phénomènes d'entraide se mettre en place c'est pas le quotidien qu'on vit aujourd'hui, mais dans ce qu'on vit aujourd'hui, notamment autour de la comment on prend soin collectivement des enfants. Il y a de plus en plus d'enfants dans le projet et voilà, ils sont là pendant les réunions, qui s'occupent d'eux, ça tourne, tout le monde participe à ça. On voit bien que quand on fait un repas partagé, ben on n'a pas tous les mêmes compétences culinaires. Quand on fait une scène ouverte pour se faire découvrir nos talents, on n'a pas non plus tous les mêmes. Et tout ça, ça vient composer un groupe et chacun met sa pierre et c'est utile au collectif. Je regarde Françoise pour voir si elle a d'autres idées à me souffler du regard. Et donc pour vivre ensemble, c'est aussi des confrontations et possiblement des conflits. Et donc nous on s'appuie beaucoup sur l'université du Nou qui a été citée je crois par toi Nicolas pour mettre en place une gouvernance partagée et arriver à prendre les décisions le plus collectivement possible en entendant les ressentis et points de vue de chacun. Et on a eu déjà fait appel à une médiatrice pour nous aider à dépasser des conflits au sein du groupe, parce que le groupe y vit déjà et depuis qu'il est constitué il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, il y a eu des conflits qui se sont résolus, il y a des tensions qui restent et c'est une matière vivante qu'il faut travailler, dont il faut prendre extrêmement soin parce que ben, on va être voisins quoi. On a envie d'habiter ensemble, donc il faut qu'on arrive à dépasser nos confrontations pour générer du mieux vivre ensemble. Voilà. T'as d'autres idées ?
Alors oui, bah, vaste question. Pourquoi on se lance dans l'habitat participatif ? Au départ, je pense qu'il y a l'idée effectivement de vivre autrement, hein, comme l'intitulé du forum. Voilà, c'est sortir de la conception de l'habitat individuel, de la propriété privée, en tout cas venir réinterroger ces concepts-là. C'est une recherche de collectif, de convivialité, d'entraide, de solidarité, de partage. Voilà, nous en tout cas, c'est ce qui nous définit vraiment aux Amar, puisque au départ, on n'avait pas une mission, c'est-à-dire quelque chose qui disait, un énoncé qui disait, voilà, on est là pour telle ou telle raison. On partageait tous des valeurs écologiques, avec voilà, c'est cette envie de commun, etc. Mais notre identité en tant que groupe, voilà, on est encore en train de la définir. Et j'observe que c'est souvent le cas dans les projets comme le nôtre. C'est très difficile de se mettre d'accord sur des valeurs figées ou voilà une raison d'être qui soit voilà en général c'est très court et de se mettre d'accord sur les termes employés. Alors nous notre raison d'être par exemple elle est pas définitive hein, mais on l'a essayé comme ça vivre une aventure humaine dans la bienveillance et le partage au sein d'un lieu ouvert et respectueux du vivant. Voilà. Après, c'est difficile de se. Voilà, on est tous d'accord sur l'idée globale. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qu'on est censé s'approprier et qui est censé définir un peu le projet. Bon, bah effectivement, c'est un peu réducteur, quoi. Mais en tout cas, nous, ce qui nous anime, c'est au bout de 3 ans, finalement, c'est vraiment le fait d'apprendre à fonctionner ensemble. Et en fait, je pense qu'on a tous énormément bougé dans notre manière de peut-être de voir les choses pour certains ou de communiquer avec notamment la communication non violente qui vient rapidement dans ce type de projet s'imposer et puis effectivement tout ce qui est apprendre à se faire confiance essayer finalement de s'en remettre un peu à nous-mêmes pour des fonctionnements qui tiennent à tout ce qui est la prise de décision etc et après voilà c'est essayer de grandir au sein d'un collectif qui nous porte auquel on s'abandonne pas mais en tout cas il y a une confiance il y a quelque chose qui fait que on va être plus que des copains. On n'est pas de la famille non plus, mais on n'est pas une communauté, clairement, on n'a pas envie de ça. Mais en même temps, il y a quelque chose qui nous lie au-delà de l'habitat, finalement. Parce qu'effectivement, on a une maison commune, on a du terrain commun, mais on a une identité qui se détache, où on sait qu'il y a de l'entraide. Et c'est-à-dire que, voilà, on sait que si on a besoin, si on a un coup dur, n'importe quoi, on fait partie de ce collectif qui est une vraie force. Et voilà, moi, je crois que c'est ce que je retiens au bout de 3 ans, c'est que je me sens grandi de cette expérience-là et puis fort pour l'avenir aussi. Parce que derrière, il y a quand même des idées aussi de prise en compte, voilà, des fondements de la biodiversité, de changement climatique, etc. Et ça fait partie aussi des sujets qui, moi, au départ, m'ont motivé à chercher un habitat participatif. Quoi.
En fait, nous, on est parti sur le modèle coopératif aussi par rapport à ce collectif parce que et de partir à l'envers de ces deux projets-là. Moi, j'en suis à ma 3e coopérative. J'ai été très impliqué dans le monde associatif et en fait, commençant par l'intérêt progrès pendant un long moment. Je me suis dit, on pourrait essayer de le prendre à l'inverse pour essayer de limiter au maximum les phases de tension, de haut et de bas. Je juge pas. Hein, c'est juste que c'était l'idée de voir comment on peut faire pour limiter ça au maximum et donc de le prendre à l'inverse. J'ai essayé ça et donc j'ai une expérience dans la coopérative de construction et dans la coopérative de une autre cycle que je dirige aujourd'hui, c'est mon métier principal. Et donc là dans ce projet-ci, on a décidé de faire appel à des compétences et des gens qui sont un bureau d'études qui accompagne les projets d'émergence de tiers-lieux. Et en fait, on entend beaucoup des tiers-lieux aujourd'hui où c'est super, on va travailler et puis en plus on nous ramène de la vie au travail. Donc tu as le droit de bien manger au travail, tu as le droit de avoir un peu de culture au travail, du sport au travail, donc tu restes au travail. Et nous, je me suis dit, mais en fait, on est en train de créer un tiers-lieu inversé, c'est-à-dire qu'on vit et éventuellement on peut travailler, éventuellement on peut avoir de la culture, éventuellement on peut avoir de l'alimentation sur place. Voilà. Et donc, du coup, j'ai appelé Entrelace, il se fait que ce sont des copains aussi, et je leur ai dit, mais vous pourriez pas nous accompagner le collectif. Nous, on s'arrête là, nous, sur le bâtiment, c'est notre talent, et vous prenez le relais sur l'animation du collectif pour prendre des décisions, pour aller au bout de cette partie commun.
Oui, alors. La question, c'est sur comment éviter l'entre-soi, comment faire en sorte que finalement voilà, notre projet ne se replie pas sur lui-même, etc. Du coup, comme je l'ai dit en introduction, on a effectivement tout de suite rénové une salle d'activité, c'est-à-dire qu'on a. On a fait en sorte d'avoir une salle où pouvaient se dérouler des activités ouvertes à l'extérieur. Alors après, clairement, il n'y a pas une grosse publicité. Tout le monde ne sait pas qu'il y a des activités qui se font aux Amars. Mais voilà, en tout cas, ça a été un parti pris dès le départ qui nous paraissait intéressant. Après, pour le reste, j'ai envie de dire que ça va... On est encore une phase de construction où finalement voilà notre terrain il est en chantier et donc ça reste des choses à imaginer mais connaissant nos personnalités, notre manière de fonctionner au sein du territoire j'ai pas trop d'inquiétude à ce sujet mais par contre ce qui est étonnant, ou je sais pas, mais c'est qu'effectivement, c'est une préoccupation de la municipalité. En fait, le maire de Coulon, notamment, voilà, il a ce truc-là, mais voilà. Est-ce que vous n'avez pas tendance à faire les choses un petit peu voilà, de votre côté? On entend dire que ceci, cela, les gens sont inquiets parce que vous avez abattu des arbres. Oui, on a abattu des arbres, le minimum possible, mais il a fallu en abattre pour aménager le lieu. Et puis, certains étaient malades, et clairement, proches de futures habitations. Après, on a essayé de respecter le plus possible la manière dont le lieu était déjà existant, etc. Et puis surtout, on a une volonté de planter beaucoup. Mais bon, pour répondre à la question de l'ouverture, comme je disais, voilà, c'est toujours faire en sorte que ce soit... Il y a des activités qui puissent se faire, il y a des, pourquoi pas, bah voilà, des portes ouvertes régulières aussi, parce que une de nos motivations, c'est aussi, voilà, nous, on est convaincus de ce choix-là de l'habitat participatif et on souhaite que ça puisse aussi servir à inspirer d'autres habitats, d'autres initiatives de ce type. Donc voilà. Et après, voilà, après, on va définir ensemble comment est-ce qu'on ouvre la maison commune, voilà, aux autres associations, etc. Ça reste des choses à définir, on n'en est pas encore au stade. Voilà.
Bonjour, je voudrais savoir comment vous choisissez les futurs. Qui décide de qui peut avoir un habitat et en fonction de quels critères? Alors, j'ai entendu que pour Koufouleu, là où est la dame, il y avait un critère de financement, il ne fallait pas dépasser un certain nombre de revenus. Pour les autres, vous n'avez pas parlé de revenus, mais à part ce critère d'argent, qu'est-ce qui vous fait accepter ou refuser? Et notamment, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait tilt, madame, vous avez dit, on refuse les seniors, et notamment, je connais une personne qui avait voulu se joindre au groupe et à qui a été refusée parce qu'elle était senior. Ça m'avait dérangé intellectuellement.
Oh, ça fait partie des choix qui ne sont pas faciles à... Enfin, qui nous sont très importants et on comprend, moi je comprends tout à fait qu'ils peuvent faire débat, mais on a cette volonté d'assurer une mixité générationnelle et à un moment donné, si on n'avait pas freiné les candidatures de seniors, on aurait eu quasiment que des seniors sur le projet. Donc là, il y a eu un choix de limiter à un certain nombre de foyers, un tiers des occupants qui sont des seniors et voilà, c'est un choix qu'on a jusque-là et on a une liste d'attente du coup pour les personnes qui sont intéressées par le projet et qui sont... donc nous on a défini seniors comme des foyers dont une personne a plus de 60 ans. Donc pour les ménages seniors, on a aujourd'hui ouvert des listes d'attente, comme on a ouvert une liste d'attente aussi pour les personnes qui souhaiteraient venir en locatif social, puisqu'aujourd'hui les 4 logements locatifs, il y a des personnes positionnées dessus, donc on a aussi ouvert une liste d'attente sur la location. Il y avait une autre question, donc effectivement sur comment les gens viennent dans le projet. Donc nous, il y a effectivement ce premier critère qui est le critère financier qui est vu avec le comité ouvrier du logement, le COL. Et après, on a un processus d'intégration qui dure plusieurs semaines, qui est en train d'évoluer, mais qui en tout cas dure plusieurs semaines, qui est un temps où les personnes intéressées par le projet participent à une visioconférence de présentation du projet, viennent visiter le terrain sur site et rencontrent du coup des premiers futurs habitants, font à l'issue de cette visite, s'ils sont toujours intéressés, une lettre d'intention par laquelle ils donnent leur motivation à rejoindre le projet. Nous, quand on se réunit en plénière, on lit cette lettre et on invite les personnes à venir nous rejoindre sur la plénière suivante pour aussi continuer l'appropriation mutuelle, parce que ça marche aussi dans les deux sens. Je pense que c'est pas facile de se dire je rentre dans ce projet-là sans connaître les autres personnes qui y sont déjà. Et donc on a ce temps de plusieurs semaines avant de dire ok, il y a un logement qui est réservé pour vous. Je reste un peu évasive parce que avec l'accélération des contrats de réservation, le processus qu'on avait jusqu'à présent va évoluer et donc voilà, il y a encore des discussions en cours là-dessus, donc je peux pas vous dire précisément quand est-ce que le processus s'arrête, mais en tout cas il commencera comme ça. ça change pas. Alors donc la personne vient de demander si le processus était payant. Donc tout le début du processus n'est pas payant. Il y a un moment où on devient adhérent à l'association. Et après, par contre, une fois qu'on réserve un logement, là, il y a des enjeux financiers qui rentrent en jeu, à la fois parce que la réservation du logement, on dépose 2% du prix du logement auprès de l'opérateur social, le COL. On a APFAB qui a accompagné l'émergence du projet, auquel chaque futur habitant va aussi régler une petite somme de 250 euros. Voilà, principalement pour les engagements financiers. Alors, la question, est-ce qu'on demande aux personnes qui vont intégrer de faire une formation sur le vivre ensemble? Le vivre ensemble, on l'apprend ensemble et on ne demande pas aux gens d'avoir fait niveau 1 CNV. Certains l'ont fait, mais pas, tout le monde ne l'a pas fait. Pareil, on ne demande pas d'avoir fait niveau 1 permaculture. Nous, dans le groupe, on est en train de se former les uns et les autres à la permaculture parce que c'est des principes qu'on aimerait mettre en œuvre dans la gestion de nos espaces verts. Mais voilà, c'est des démarches individuelles motivées par une dynamique collective. Voilà.
Bonjour, donc Johan, avec ma voisine Olatz, on a envie de faire un projet d'habitat participatif, on en est vraiment au tout début. Voilà, il y a tout reste à faire. Mais moi, la question que je me pose, c'est en termes d'accompagnement. Là, vous avez parlé de structures qui vous accompagnent. Et en fait, comment vous faites pour prendre vos décisions en collectif, de dire, là, sur ce point-là, on a besoin d'être accompagné. Là, on se débrouille tout seul. Et finalement, quels sont les critères aussi? Parce que, dans un sens, on se dit, cet accompagnement, il est payant. Donc, est-ce qu'on ne fait pas monter le prix voilà, et donc, voilà, c'est un peu là les questions que je me pose sur nous. À quel moment vous vous dites, mais absolument, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne de l'extérieur et qui soit accompagné. Et là, on se débrouille tout seul, quoi.
Alors, pour un lancement de projet, je sais qu'il y a, effectivement, on a parlé d'Oasis tout à l'heure, là, les Oasis de Vie, le mouvement issu des Colibris, qui propose d'accompagner des démarches de projet. Ça peut se faire à distance, etc. C'est un coût, mais qui peut qui me paraît acceptable pour si on est déjà quelques foyers, etc. Pour le reste, moi je peux que encourager à aller rencontrer des habitats déjà existants pour avoir leur expérience, savoir les questions qui se sont posées, à quel moment ils ont fait appel à tel ou tel professionnel, etc. Mais après, je veux dire, il y a une sorte de méthodologie, il y a pas de recette unique, etc. Mais en tout cas, il y a des étapes par lesquelles on peut passer pour se donner le maximum de chances. Après, j'ai envie de dire, il y a toujours une part de réussite ou de hasard. Il faut avoir une idée un peu précise de ce qu'on recherche en termes de vie ensemble, de localisation du terrain, de type de terrain aussi peut-être. Et puis derrière, les questions vont se poser au fur et à mesure, quoi. Nous, ça a démarré, il y a 5 ans avec cette Si, certains y habitent, oui. Mais il y a 5 ans, on se faisait des petites réunions comme ça, des apéros où, on va parler de l'habitat participatif. Qui envisagerait de faire ceci, cela. On s'échangeait des informations à ce sujet. Et finalement, on n'y connaissait pas grand-chose. Enfin, en termes de montage juridique, montage financier, etc. Tout ça, on apprend sur le tas. On devient. Après, on s'organise, on se structure à travers des commissions, etc. Mais la base, c'est déjà un groupe qui a envie d'aller dans une direction. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est variable. On peut s'appuyer sur un terrain déjà existant ou le chercher ensemble. Il peut y avoir une maison commune, il peut ne pas y en avoir. Bon, il y a l'aspect financier qui, au départ, peut vraiment bloquer. Nous, par exemple, on a dû acheter le terrain et la maison un demi-million. Ça veut dire qu'il fallait un apport conséquent, quoi. Au-delà de plus de 50, 60 000 euros par foyer, où on pouvait s'engager là-dedans. Avoir cette épargne-là relativement rapidement pour que le projet puisse démarrer. Donc, mais il y a d'autres formules, on l'a vu. Rencontrer des projets, lire des bouquins consacrés à ce sujet, il y en a pas mal qui font référence. Et puis, les oasis, le mouvement Colibri, quoi. Il y a un MOOC consacré aux oasis de vie. Voilà.
Nous, on a fait le choix d'avoir une posture de dynamisateur de projet. Donc, on est là pour donner notre énergie sur ce projet-là et quand même une expertise au niveau du réseau de la construction. Par contre, on a été chercher des experts à chaque étape. C'est un vrai challenge d'aller chercher de l'argent pour financer tout ça. Là, je réponds à la question. Pour nous, aujourd'hui, déposer le permis de construire, c'est 100 000 euros. 100 000. 100 000. Déposer un permis de construire. Aller jusqu'au permis de construire. Si on veut mettre tout dans la tout derrière, les oui, mais 100 000 euros, c'est 23 études de sol, conception architecturale, l'architecte à lui tout seul, 25 000 euros. C'est mettre tout ça à les bouts à bout. Mais si on se donne pas les moyens, on n'y arrivera jamais. Par contre, on est 23 pour y arriver. Aujourd'hui, sur les 100 000 euros nécessaires à ça, on a déjà trouvé 50 000. On les a. Par contre, ils sont partis. Donc comment on fait là maintenant pour la suite? C'est bah, maintenant, c'est, on crée un collectif et il faut que les gens viennent mettre 1000, 2000, 3000, j'en sais rien, ce qu'ils peuvent. Mais si on, à un moment vous vous investissez pas financièrement dans votre projet, vous n'aurez jamais rien. Ça, c'est, il y a pas de secret. Hein. Et aller chercher des experts, c'est se donner deux fois plus de chances ou trois fois plus ou dix fois plus de chances que le projet il aboutisse. Si vous bricolez dans votre cuisine, ça bougera jamais, quoi. Voilà. Et ça, ça vaut quand vous montez une entreprise de construction, quand vous faites n'importe quoi, investissez dans votre outil de production et ça marchera. Ben, c'est quand même votre lieu de vie, hein. C'est un investissement, votre investissement de principal dans votre vie, quoi. Donc, ça me paraît logique qu'on mette des ronds sur la table. Voilà.
Vous êtes sur Radio Albigès, 95.4 et 104.2 FM, et vous écoutez une conférence enregistrée à Biocibel 2022 intitulée Habiter autrement.
Je prends la place à quelqu'un, je crois. En fait, si je saute comme ça, c'est parce que moi, aujourd'hui, moi, je suis architecte. Hein, et j'ai travaillé pour des projets, très, très gros projets, bâtiments industriels. Et donc, je connais très bien les bâtiments. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de proposer du bâtiment, du bon bâtiment, bien fait, et surtout de baisser les prix. De baisser les prix, même 25 000 euros pour une... combien de maisons pour la 25 000 euros l'architecte?
La mission complète de l'architecte sur un projet à 5 millions d'euros, c'est 147 000 euros.
Mais je la connais très bien, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est ça que je veux dire. Et donc ma recherche, elle va aller vers baisser les coûts justement de l'architecte aussi, parce que sur des concepts clairs et en optimisant la conception et aussi en optimisant la construction. Vous avez parlé tout à l'heure, si j'ai bien compris, à peu près les prix au mètre carré, c'est 1500 euros, 1600 euros.
Non, on est bien plus que ça. Hein.
Non, mais elle a dit
2100.
2100, mais il y avait les 500 euros de foncier dedans.
Ah, c'était
dedans.
En plus.
Ah, c'était en plus. 2100 ah, oui. euros le mètre carré. Je suis outré. C'est juste ça. Bah après, je trouve qu'on doit arriver à faire beaucoup moins cher et que les gens qui n'ont pas les moyens puissent y accéder. C'est juste ça, je vais essayer d'aller vers ça. Quoi. Alors,
moi, je vous dis juste qu'il y a une réalité économique sur la construction et donc les prix, voilà, c'est comme ça. Par contre, c'est quel outil on met à disposition pour pouvoir accéder à ça, à cette qualité de construction, de finition et sur des prix qui soient corrects, aussi bien pour les gens qui travaillent le bâtiment que sur les autres, on y arrivera. Mais enfin, moi, le low cost dans le bâtiment, ça fait 20 ans que je suis dans le bâtiment, ça fait 10 ans que je suis artisan. Non, ça marche pas en fait.
Non, mais chacun a son savoir et chacun essaie de mettre son savoir en pratique par rapport à son savoir. Donc, on va pas. Les positions ont été explicitées. Et donc, par rapport à l'accompagnement, il y avait déjà la
Donc, je finis juste par rapport à la question de l'accompagnement. Donc, je suis pas la mieux placée pour parler de pourquoi et comment APFAB est arrivé dans le projet au départ. Mais ce que je ressens, moi, en étant arrivé il y a un an et demi dans le projet, c'est que APFAB a vraiment permis au groupe d'habitants de venir négocier et peser avec une parole aussi d'un professionnel face au promoteur social de Cole et face au maître d'œuvre, équipe d'architectes, etc. Donc, ils nous ont vraiment accompagnés pour former un discours et être dans un échange qui nous permette de peser dans les décisions et de faire valoir nos orientations. C'est posé il y a pas très longtemps la question de poursuivre ou pas cet accompagnement avec APFAB, et nous on a considéré qu'on était suffisamment mûrs aujourd'hui pour avancer par nous-mêmes. Donc on fonctionne beaucoup par retour d'expérience avec d'autres projets d'habitat participatif. Là aujourd'hui on est en pleine réflexion sur la structuration juridique, comment l'association d'habitants et la copropriété, puisqu'on sera géré sous le statut d'une copropriété, comment ces deux choses vont dialoguer et comment on va réussir à se rapprocher d'une prise de décision à un ménage égale une voix dans les prises de décision, ce qui est pas du tout le modèle dans la copropriété. Donc on est en train de travailler là-dessus pour que aussi les locataires qui sont usagers du lieu puissent peser dans les décisions qui seront prises dans la vie de la copropriété. Donc on est en train de travailler là-dessus, et ça on le fait par retour d'expérience d'autres projets et sur la médiation qu'on est allé chercher pour un accompagnement à la vie du groupe, on va dire. Ben, à un moment donné on s'est rendu compte qu'on avait des tensions qui grimpaient et que chacun de nous, même si on a des compétences, on était partie prenante de ce groupe-là et qu'on avait besoin d'un tiers qui vienne nous aider à prendre du recul et à nous donner des outils pour continuer d'avancer ensemble. Donc on a pris collectivement la décision de faire appel à une médiatrice et on la garde très précieusement dans notre carnet d'adresses, parce que je pense qu'elle sera appelée à revenir nous voir. Elle a encore beaucoup à nous transmettre, je crois.
Moi, ça m'intéressait de créer un habitat participatif parce que je suis, pour plusieurs raisons, et beaucoup de gens, je connaissais beaucoup de gens qui étaient intéressés par ça. Mais moi, je me suis rendu compte qu'il fallait que le projet soit adapté au nombre de gens qu'il y a dans le. Et en fonction, si on veut de l'ancien, on peut rénover d'une manière plus souple que si on veut du neuf, etc. Ça, c'est.
Après, nous, on est quand même parti aussi d'une opportunité qui était la ville de Gaillac qu'on a rencontrée et qui nous a dit ben, nous, on a une réserve foncière pour ça, qui est hors marché, hors prix. Alors, nous, on n'a pas le col derrière, mais on l'achète 14 euros du mètre carré, viabilisé, si vous voulez, c'est quasiment pareil. Donc, c'est pour. De quoi ?
C'est même beaucoup mieux.
Oui, non, mais voilà, enfin, on est sur un coût d'achat du foncier qui est un cadeau de la ville de Gaillac. C'est le prix des domaines. Donc en fait, ça nous permet déjà d'avoir un kick. Et donc on a dit bon, ben on a ce truc-là, on a l'association, ben on continue et on envoie du steak, quoi. Et c'est comme ça que c'est parti. Il faut des ronds, ben on se bouge. On appelle la famille, on appelle les copains, on dit salut, regardez, on a un joli projet, on va sauver le monde. Ben donnez-nous des ronds, voilà.
Non, juste pour réagir sur les frais de maîtrise d'œuvre, donc le coût qu'on a payé à l'équipe d'architectes et puis de tous les concepteurs qui sont avec, pour pouvoir peser dans les décisions qui étaient prises par le col et cette équipe de maîtrise d'œuvre, l'association d'habitants a apporté 15% du financement des frais de maîtrise d'œuvre. Et donc pour apporter ces 15% du financement, c'est chaque habitant qui amène un peu à travers ce qu'on appelle les apports associatifs. Donc quand mais alors ça, c'est un dispositif qui se fait à s'arrêter là maintenant que les travaux vont démarrer. Mais jusqu'à présent, tous les foyers qui sont rentrés dans le projet ont apporté un petit capital pour financer quelques milliers d'euros, je ne sais plus les chiffres exacts en tête, un apport qui est proportionnel à la taille du logement sur lequel on est positionné, pour participer à ces frais de maîtrise d'œuvre. Et les foyers qui ont quitté le projet depuis et qui avaient contribué ont, pour les plus anciens, déjà été remboursés et à terme, tout le monde sera remboursé de ses apports associatifs et cet argent-là nous servira pour finaliser notre achat du logement. Mais on a eu cet apport-là pour aussi dire que quelque part, on a aussi un poids financier dans les décisions qui étaient prises. Voilà.
Petite subtilité sur le principe de l'achat du droit d'usage sous forme de parts sociales. Vous achetez des parts sociales dans une société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire une entreprise reconnue sociale solidaire d'utilité sociale, c'est-à-dire que les parts sociales que vous achetez, elles sont défiscalisées entre 18 et 25%. Je sais pas si vous voyez aussi un petit peu l'intérêt du véhicule juridique qu'on utilise, quoi.
Je voulais juste dire qu'effectivement, bon, l'accès à la propriété, c'est pas très simple, ça a un coût, plusieurs solutions sont envisagées, mais c'est, voilà, on s'arrache un peu les cheveux avant d'y arriver. Donc moi, j'ai envie de parler très rapidement de l'étape d'après, c'est-à-dire, dans l'habitat collectif participatif, moi, ce que je pense, ce que j'ai envie de vivre et ce que je commence déjà à vivre, c'est vivre mieux avec moins. Et ça donne du sens. Parce que, et ça va se renforcer au fur et à mesure que dans notre groupe, les autres foyers vont s'installer et vivre dans leur maison, on va pouvoir davantage mutualiser nos ressources, nos équipements. Et ça, c'est une part de bonheur. Et sur le plan écologique et sens de la vie, ça cause bien.
Alors, c'est plus pour les amarres, donc la question, si j'ai bien compris, il y a une différence fondamentale par rapport à votre montage juridique, c'est que chaque résident des amarres est propriétaire de sa maison, c'est ça ? Et oui. Si c'est ça, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix-là ? Parce que si j'ai bien compris, dans les autres montages, les propriétaires sont les coopératives et les personnes, c'est pas ça ? Voilà, j'ai pas compris. Super, merci.
Il y a autant de possibilités que de projets, j'ai envie de dire. Bien sûr, il y a des grandes mouvances, voilà, la coopérative d'habitants ou le fait que le foncier soit détenu par voilà un organisme, etc. Nous, le choix du privé sur les personnes individuelles, ça correspondait à l'envie des foyers présents qui par souci de simplicité, etc. Il y avait une attente dans ce domaine, j'imagine. Mais clairement, voilà, le côté pratique. Bon, ben, on connaît, on sait, on va fonctionner plus facilement, peut-être comme ça, simplement en différenciant ce qui est commun et ce qui est privé. Mais pour autant, j'ai envie de dire, dans les faits, nos parcelles sont pas bornées. C'est-à-dire que il y a de l'intimité, très important. Voilà, on a chacun notre maison. Et d'ailleurs, on se débrouille pour la construire. Il y a l'autoconstruction, il y a des maisons clés en main, on va dire. Enfin, une, en l'occurrence. Et derrière, après, c'est le vivre ensemble qui nous intéresse tous. Hein. C'est pas tellement le bâti.
Si je
si je me permets de résumer, aux amarres, il y a 13 000 mètres carrés, 1 hectare 3. 7 hectares 3, chacun des 11 foyers a acheté 300-320 mètres carrés, et chacun des foyers sur ces 300-320 mètres carrés a géré et réalisé, ou réalise, pour ceux qui sont en cours, la construction de sa maison avec une réponse à un cahier des charges, mais avec une latitude de chacun dans le cadre de ce cahier des charges. Et le reste du terrain est une propriété de la société civile. Le reste du terrain et le bâtiment d'origine est propriété de la société civile immobilière. Donc chacun des 11 foyers détient un nombre égal de parts. C'est ça ?
Oui, oui.
Voilà. Donc, au jardin La Bastide, le col achète le foncier avec dialogue avec l'association. Donc, on arrive au stade permis de construire et ceux qui vont réserver un logement, un délogement qui a été conçu et qui pour le moment est sur le papier, chacun va acheter son logement, bon, mais qui a été conçu dans le cadre rapport association-col, etc. Mais par contre, ne va pas acheter le foncier qui restera propriété du col et paiera donc une taxe foncière, voilà. Mais à Copavit, j'essaie de résumer les trois.
Oui, juste pour finir de compléter sur notre montage. Donc nous, effectivement, c'est bien ça sur la question du foncier. Après, sur toutes nos parties communes, la maison commune, les espaces extérieurs, etc., ce seront des parties communes d'une copropriété. Le fonctionnement juridique, on sera sous forme de copropriété avec toutes les. Ouais, vous partiez sur le.
Non.
Ah pardon. Et donc voilà, toutes nos parties communes, nos espaces communs feront partie des parties communes de la copropriété. Dont on sera gestionnaire.
Et à Copavivre, la société coopérative d'intérêt collectif achète le terrain avec l'apport des parts sociales, avec l'apport d'emprunt, avec l'apport d'épargne, suivant des modalités que la création de la SIC va préciser et qui pourront être évolutives. Chacun est d'une part, la propriété de ces parts sociales de sociétaires qu'au bout du chemin, suivant des modalités, il récupérera, soit l'équivalent du prix de logement s'il a fait un apport correspondant à la valeur, et soit, pour ce qui concerne ceux qui n'ont pas de quoi faire un apport à 100%, ce sera leur apport et ce sera aussi tout ce que, au fil de ce qu'ils paieront chaque mois, une fois déduit les charges diverses, ce sera transformé en part sociale. Et c'est pour ça que c'est ni propriétaire ni locataire. Non, ça va quand même. Voilà.
Est-ce que vous avez eu une réflexion sur le nombre de personnes, ou alors le nombre de... Moi, j'appelle ça une entité. Enfin, une famille, pour moi, c'est une entité. Un célibataire, c'est une entité, un truc comme ça. Parce que par exemple, pour un mot début, ils ont dit qu'au-dessus de 80 personnes, finalement, il y avait souvent des gens qui ne se voyaient plus. Et du coup, eux, ils ont arrêté leur lieu collectif à ce nombre-là. Moi, j'aurais très peur d'aller avec autant de personnes m'arranger. Mais en tout cas, voilà, je me demandais si vous avez eu une réflexion sur combien on sera...
Alors nous aux amarres, voilà, c'est le terrain qui a un peu dicté le nombre de foyers. Mais par exemple, en ce qui me concerne, moi et ma compagne, on était dans une idée de faire un habitat participatif avec moins de foyers, quelque chose de plus excentré aussi, viser plutôt l'autosuffisance, etc. Et en fin de compte, voilà, nous notre terrain, compte tenu du prix d'achat, etc. On a rapidement vu que 10 foyers, ce serait un peu limite en termes de financement, et 11 ça pouvait c'était un maximum, mais du coup ça nous permettait d'y aller plus sereinement en fait en termes de financement et de paiement des charges, etc. Et donc voilà, donc mais clairement une des motivations pour lesquelles on a fait les amarres plutôt qu'au jardin de la Bastide, ça a été la taille du projet, voilà. Et au final je pense que chaque en fonction du nombre de foyers, chacun a son avantage en fait. on peut avoir un projet à 4-5, mais en même temps, le risque, c'est effectivement, s'il y a une embrouille, tout de suite, ça peut devenir plus compliqué. 10 foyers, c'est la taille intermédiaire, on va dire. Et puis, au-delà de 15-20, effectivement, il faut accepter le fait de ne pas tous se connaître, de ne pas tous se côtoyer quotidiennement, de ne pas être dans une, on va dire, une sorte d'organisme vivant où, finalement, s'il y a un élément qui ne va pas bien et qui répercute sur tout le monde, c'est ça l'intérêt aussi. C'est une taille supérieure permet aussi de. Pas de favoriser l'anonymat, mais en tout cas de favoriser plus de respiration, plus de... Voilà, comme ça que je vois.
Nous, c'est un équilibre entre la taille du terrain et la faisabilité économique, parce que plus on est nombreux, plus on divise les charges. Mais par exemple, ça nous a fait marrer, on a été voir Tarn Habitat pour leur proposer de rentrer dans la boucle, pour faire de l'accession sociale, vraiment du social. Et on leur a dit, voilà, on a 9 500 m², on voudrait faire une vingtaine de logements. Et fait, ah, et vous allez vendre des parcelles alors? Ben non, en fait, nous, on veut qu'il y ait le minimum de gens, enfin, que ce soit un bon équilibre entre espace vert, densification, et puis individualité et rentabilité, quoi. Pour eux, sur 9 000 m², on aurait dû faire 3 étages, quoi. Voilà, c'était... Parce qu'eux, ils sont à 1 800 € du mètre carré. Et ça, c'est pas possible.
Alors, nous, le nombre de logements, il a été fixé au départ par le plan local d'urbanisme, qui, à travers une OAP, une orientation d'aménagement et de programmation, fixait pour ces parcelles-là d'accueillir, je crois, au départ, 30 logements. Et puis, au fil du travail sur le projet et de la réalité économique du projet, on est monté à, en tout, 35 logements. Donc, 30 logements dans le projet d'habitat participatif, puis ces 5 parcelles qui seront vendues pour Loi Bâtir, qui seront nos voisins privilégiés, mais qui feront pas à proprement partie, partie du projet participatif. Ça, c'est sur le nombre. Et du coup, après, pourquoi venir dans un projet à 30 plutôt qu'à 10 ou à 5? C'est des questions de feeling, je pense. Et moi, à titre très personnel, c'est que j'ai le sentiment qu'à 30 foyers, on est un peu à l'échelle de la rue. On n'a pas besoin de tous se connaître et d'avoir des affinités très fortes tous ensemble. Qu'on peut aussi plus facilement se décharger les uns les autres selon l'implication qu'on peut mettre dans le projet à un instant T. Et à 30, on en trouvera... voilà, ça permet plus facilement qu'il y ait des personnes qui soient dans des moments de leur vie où ils ne peuvent pas s'investir dans le projet, ils sont un peu en retrait et d'autres peuvent prendre le relais. Voilà, moi, c'est des avantages que je vois. Et en même temps, effectivement, il y aura... pas la même intensité ou complicité que si on était que 8 foyers. Mais voilà, c'est des choix, je sais pas comment les expliquer, quoi.
Je vais juste dire un truc sur la partie financement de tout ce qui est pré-études. En fait, il existe moult fondations en France, des banques, des assurances, des complémentaires qui veulent se donner de bonne conscience et qui ont de l'argent, en fait. Donc nous, on passe énormément de temps à faire plein de dossiers, Fondation de France, Aviva, machin, des banques. Ça paye ou ça paye pas. Pour le moment, ça coûte plus d'argent que ce que ça en rapporte. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ça permet d'avoir dans la boucle... la CARSAT, la CAF, des gens comme ça qui peuvent venir après une fois qu'il y a le lieu de vie. On en parlait tout à l'heure de comment ça se fait, le collectif derrière, comment ça se passe. Par exemple, la CARSAT a des budgets prévus quand il y a des lieux de vie intergénérationnels pour pouvoir venir animer le collectif pour pas que justement que ça parte en quenouille une fois que c'est en route, quoi. Voilà. Au niveau du collectif, on avait la ville de Gaillac qui rapidement nous a dit, ah mais c'est génial, le CAS, il nous dit, mais au lieu de faire des liaisons chaudes avec les personnes dans les campagnes pour aller livrer des repas aux personnes isolées, on pourrait aller chercher des personnes isolées, les ramener là dans la commune. Nous, on pourrait prendre en charge des choses pour que ça marche, quoi. Du coup, ça, on pourrait faire un espace. Voilà, il y a plein de choses en fait à inventer. Et donc, du coup, si une collectivité émet une attente comme celle-là, de lui dire, très bien, de quelle manière est-ce que toi tu mets des sous sur la table maintenant pour payer toutes ces pré-études? Et 5 000 ou 10 000 euros pour une collectivité, c'est 10 euros pour nous en fait. Donc, ça marche comme ça aussi d'aller faire beaucoup de réseaux et ça prend beaucoup de temps. Voilà.
Bon, on va conclure. Donc, bonne navigation aux amarres, puisque les amarres sont larguées et que l'ensemble des passagers est embarqué à bord du paquebot. Hein. Pour au Jardin La Bastide, donc il y a le site au Jardin de la Bastide, vous l'avez là. Il y a leurs réunions, leurs contacts. Hein. Et pour Copavive, donc il y a cette assemblée générale de l'association. Donc de la structure actuelle associative, donc le
30 juin 81, place d'Hautpoul à Gaillac à 19h.
Voilà, et voilà.
Il y a les flyers,
il y a les coordonnées pour les contacter. Voilà, maintenant c'est simple, il faut Yaka. Merci.
Merci à vous.
C'est la fin de cette conférence. Elle est déjà disponible depuis notre site internet, à savoir radioalbiges.com, en cliquant sur le bouton pour écouter les émissions en podcast. À très vite sur Albigès.